contexte, d'autant plus qu'en termes de divergence de poids, c'est un peu David et Goliath par rapport au financement du Qatar, les financements qu'on peut obtenir au niveau de la société civile en Europe. Donc voilà, on a besoin, en tant que société civile, de se rencontrer, de sortir de la méfiance qui provient du flicage passé, et on a besoin de soutien concret pour être plus forts ensemble. Et au niveau des médias, effectivement, une attente aussi en tant que citoyenne. Il y a un peu d'angélisme parfois. Je rejoins les inquiétudes de Madame Béji, les inquiétudes à propos du Mali. Il ne faut pas sous-estimer les forces et le poids de cette tendance réactionnaire, on va l'appeler comme ça. Et dans les médias, il y a un peu d'angélisme, voilà, je trouve, par rapport à la façon dont est présentée la révolution. Et tout ce qui va autour, et la façon dont est présentée aussi la tendance réactionnaire, qui est, voilà, il y a très certainement un manque de nuance et de finesse dans l'analyse, qui ne parvient pas à ouvrir aux téléspectateurs ou à l'auditeur des brèches pour déconstruire le discours officiel, puisque le parti majoritaire est majoritaire, il a le monopole de la parole institutionnelle, et donc il y a tout un travail de déconstruction qui ne se fait pas dans les médias, voilà, tel que je le perçois. Je ne sais pas si tu veux me compléter.
Oui, monsieur.
Je m'appelle Mustapha Ezidi, et par modestie, je ne représente que moi-même. Je suis belgo-tunisien. J'ai deux ou trois petites questions à poser à nos invités auxquels, hein, je suis redevable de cette bonne intervention, plusieurs bonnes interventions. Je ne comprends pas comment se fait-il, c'est le paradoxe que je n'arrive pas à m'expliquer, que la plupart des dirigeants du parti dominant aujourd'hui soient ceux qui ont vécu à l'étranger dans des conditions les plus favorables. Et si je comprends bien la situation, ceux parmi les dirigeants qui ont été maltraités et qui sont restés à l'intérieur du pays semblent être un peu plus compréhensifs de la situation du pays. Ça, c'est le premier paradoxe que j'essaye de m'expliquer. Le deuxième paradoxe, c'est comment se fait-il que les représentants élus à l'étranger, et spécialement en France, soient la plus grande part, tous les postes pratiquement ont été occupés par des représentants de ENAV. Ça, comment se fait-il que ceux qui ont bénéficié des conditions d'alliance les plus démocratiques, est-ce que c'est parce qu'ils ont vécu des situations où l'islam, d'une manière générale, a été plus ou moins, attaqué dans les pays occidentaux concernant le terrorisme? Est-ce que c'est par réaction à ce phénomène? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, est-ce que par, le jeu des élections, on a favorisé ceux qui ont été les plus, instruits, entre guillemets. Je me suis laissé dire qu'en Tunisie, quand il y a un homme qui va voter le jour des élections, il est suivi de 3 ou 4 femmes et il dit, voilà, à ces femmes, votez comme de telle manière ou de telle manière. Je ne sais pas si la réalité est conforme à ce que moi j'ai entendu dire. Question future pour l'instance qui va superviser les élections. J'ai cru comprendre à un certain moment, dans certaines lectures, que parmi les représentants qui seraient choisis, seraient éliminés tous ceux qui ont fait partie d'un parti politique ou d'une organisation, reconnue comme telle. Est-ce que c'est maintenu dans les conditions actuelles qui vont permettre le choix de ces représentants concernant l'instance qui va organiser les élections? Et merci beaucoup.
Merci. Je crois qu'on va répondre brièvement à ces questions avant de devoir conclure. Vous ?
Tu permets ou tu peux répondre? Il y a deux questions très intéressantes, trois. Les médias. Donc, effectivement, c'est un gros problème parce que les médias français viennent avec, effectivement, une sorte d'angoisse par rapport à l'islamisme qui est lié à la montée des mouvements voilés en Europe et des cas comme Mohamed Merah, de criminels liés, dans une criminalité liée à l'islam et qui a tendance à confondre islam et crime. Et ça, quand ils arrivent en Tunisie, soit ils font de l'angélisme démocratique, effectivement, soit ils font de la diablerie aussi. Il y a eu un film sur les salafistes en Tunisie. Beaucoup d'amis l'ont vu, ont dit, mais le pays est à feu et à sang, il n'y a que des salafistes. Je dis, mais est-ce qu'on peut venir? Je dis, mais oui, bien sûr, les Tunisiens n'ont pas changé. Il y a des invariants anthropologiques dans un pays. Et ça, ils ont tendance, les médias, à cause de cette loupe rudimentaire, grossissante, ce despotisme rampant des médias, parce que je crois que c'est ça qui guette le plus la démocratie, c'est le despotisme des médias. C'est ce quatrième pouvoir, entre guillemets, qui n'a pas le droit d'être un pouvoir puisqu'il n'est pas élu, justement. Il s'est auto-institué pouvoir sans être représentant de la nation. Donc ce quatrième pouvoir caricature la société tunisienne et heureusement, et là je rejoins, parce que je suis optimiste constitutionnellement, mais pessimiste dans la conjoncture, mais au fond je suis optimiste par rapport aux Tunisiens parce qu'il y a en eux une telle complexité humaniste liée à une histoire antique. Il y a un tel humanisme enraciné qu'ils ont des tas de ressources pour résister. Mais ces ressources-là, on ne les voit jamais dans la radio. Et je vous donnerai un exemple, le mien. Je suis intervenue il n'y a pas longtemps à Marianne, à un colloque, où c'était au moment précisément que tu disais, où la charia a été retirée de la Constitution. J'ai trouvé ça tellement formidable que j'ai fait l'éloge de Nahda dans ma conférence. J'ai dit, mais c'est formidable, Nahda, c'est vraiment un parti réformiste, il faut les soutenir. Mais j'ai expliqué pourquoi. J'ai expliqué que la société avait résisté, qu'on avait une tradition civile, qu'ils ont vu qu'ils allaient au-devant d'une impossibilité d'une guerre civile, mais qu'ils ont eu l'intelligence de retirer avant qu'il y ait guerre civile. Qu'est-ce que j'ai pas entendu de la part de mes amis démocrates d'avoir dit ça? Pourquoi? Parce que le journaliste de Marianne n'a pris qu'une partie, il a fait, et ils font tout le temps ça, hein, les journalistes, malheureusement, je suis sûre que vous ne le faites pas, mais beaucoup de vos confrères le font. Ils ont pris un mot, ils ont mis « Madame Béji, défenseur des droits de la femme, fait l'éloge de Nahda ». Bon, alors ça paraissait comme si j'avais un double discours, alors que j'avais expliqué que c'était formidable, qu'il fallait prendre les gens à la lettre, et je le dis toujours, il faut les prendre à la lettre, quand ils disent « on retire la charia », prenez, c'est bon pour nous. Donc, voilà. Et ça, c'était une caricature de ma pensée. Et ils font tout le temps ça, que ce soit avec les islamistes, que ce soit avec les démocrates. Ils caricaturent parce que ça arrange quelque part les journalistes européens d'être des représentants magnifiques, vertueux des droits humains devant l'éternel, n'est-ce pas, tel que l'absolu les change, et qu'ils sont là pour donner des leçons de démocratie à tout le monde, alors qu'on sait que les droits de l'homme ont été sacrifiés pendant 100 ans par l'Europe dans les colonies. Donc c'est comme un discours compensatoire. On ne veut pas regarder les fautes qu'on a faites dans l'histoire, alors on est de nouveau les grands Manitou des droits de l'homme sur Terre, alors qu'on a été les agents de la colonisation et des plus grands massacres de l'humanité. Donc je crois que là, il y a un phénomène compensatoire. Pour répondre à monsieur, vous avez raison, mais pas totalement. Parce que, si vous voulez, les islamistes tunisiens, entre guillemets, et non pas exilés, ont un rôle important. Hamad Ijbeli et Ali Larayev. Et justement, ils sont beaucoup plus tempérants et doux. Je dirais, j'aime bien l'islam doux, non pas modéré, parce que j'aime pas l'islam modéré, moi. J'aime l'islam républicain. Je pense que l'islam peut devenir républicain. Ça, j'en suis persuadée. Donc, ils portent en eux des traces très fortes de tunisianité parce qu'ils ont vécu en Tunisie, en prison. Et je suppose qu'ils se sont fait plein d'amis qui n'étaient pas des islamistes. Et je suppose qu'ils ont compris, en vivant à Tunis, qu'il y avait quelque chose dans la Tunisie qui n'était pas forcément fanatique. Et je pense que ce sont des dirigeants non fanatiques de l'islam qui peuvent demain, moi je pourrais demain voter pour un islamiste qui ressemble à Ijbeli, par exemple. Je n'ai aucun problème avec ça. Voilà, non, si, pourquoi pas? Pourquoi pas?
On va attendre pour savoir où il va.
On va attendre, mais là, l'histoire lui donne raison. Mais il faut être prudent, je suis très prudent. Mais pourquoi pas? Je dis, pourquoi un préjugé à l'avance?
Non, 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 c'est pas.
Il ne faut pas avoir de préjugés vis-à-vis des islamistes, tu comprends? Il
ne
faut pas. Il faut négocier, bien sûr. Voilà.
Mais j'attends.
Voilà, en gros. Oui, mais lui, il a oublié. Ce n'est pas moi qui ai oublié, c'est lui qui a oublié. Je crois qu'il est passé de l'autre côté.
Ok, merci. Madame Bakker, un dernier mot?
Oui, c'est à peu près la même remarque à propos des médias occidentaux. En fait, je suis moi toujours déchirée entre le fait de dire « Ah, c'est bien, il y a telle télévision européenne ou tel journal qui prend la relève avec nous pour dénoncer un truc qui se passe en Tunisie, etc. » Mais en même temps, je trouve que je souhaiterais que ces choses-là, que vous veniez pour les voir d'un peu plus près, que vous ayez moins de regard extérieur et que vous soyez moins alarmiste. Parce que moi, j'ai été profondément choquée par cette émission d'envoyé spécial où je ne reconnaissais plus mon pays. On était en plein Afghanistan. Or, c'est vrai qu'il y a des salafis, c'est vrai que tous les jours, ils nous dérangent un peu, il y a de la violence, il y a ceci. Mais il y a autre chose, il y a nous. Et il y a nous, et nous continuons à être les citoyens à plein titre. Il y a des, encore une fois, la société civile, il y a les partis démocrates, il y a les femmes, et on continue à se battre. Et ce genre d'émission, non seulement il y a comme une espèce de non-reconnaissance de notre existence, mais en même temps, moi, je trouve qu'elle porte préjugé à mon pays sur le plan économique. Et ça, c'est très mauvais. Nous avons, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le gouvernement est tenu par un parti islamiste que je ne veux pas que mon pays évolue sur le plan économique et social. Et ça, il y a quand même un équilibre. C'est trop facile de jouer à ce jeu. Malheureusement, même notre presse locale le fait aussi de temps à autre. Je voulais répondre au monsieur, je trouve que votre remarque est très pertinente et je la constate tous les jours maintenant que je connais personnellement les 89 élus. Et effectivement, ça a l'air paradoxal, mais ceux qui viennent d'Europe, c'est ceux qui prennent les idées les plus conservatrices. Mais finalement, à bien y réfléchir, ce n'est pas si étonnant que ça. Parce que c'était un constat que je faisais malheureusement aussi par rapport à nos émigrés et à nos ouvriers émigrés quand ils revenaient en vacances. Parce qu'il y a comme une espèce de coupure entre eux et le pays. Et quand ils reviennent, on dirait qu'ils retrouvent le pays qu'ils ont lâché il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 15 ans. Ils n'ont pas évolué en même temps que nous. Et même si je suis un peu en partie aussi d'accord avec elle quand elle parle de ceux qui, malheureusement pour eux, ont passé des années en prison, et ben ceux qui ont passé le moins d'années en prison, c'est ceux qui sont le plus ouverts. Et ça, c'est... Non, le moins d'années en prison, c'est ceux qui sont les plus ouverts, parce qu'il y a eu moins de distance entre eux et l'évolution de notre société pendant ces 30 ou 40 dernières années. Si, si, parce que, par exemple, si tu... Il n'est pas entièrement. Si tu prends un Semir Dinou ou Yahamad Ishbeli, je te dis qu'il y a une énorme différence et elle est.
Oui, l'un est ouvert par opportunisme, l'autre est ouvert vraiment.
Ça se discute, mais je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, nous sommes tous condamnés à survivre et à vivre dans ce pays ensemble et à trouver le moyen de pouvoir dialoguer sans qu'il y ait de discrimination. Et là, je réponds au monsieur, oui, dans le texte de loi, il y a un peu de discrimination. C'est peut-être normal dans une phase post-révolutionnaire, limitative par rapport aux gens qui ont participé à l'Ancien Régime, les gens qui ont occupé des postes importants dans l'Ancien Régime, ceux qui ont soutenu l'élection de Ben Ali pour 2014, et ça c'est des choses, à mon avis, parfaitement normales. Vous trouverez tous ces détails sur le site de l'ANC, www.anc.tn, si vous êtes intéressé. Merci.
Merci. Je crois que M. Daniel Soile souhaiterait dire un petit mot, en vitesse.
Merci, merci beaucoup. C'est une belle matinée pour tous les amis de la Tunisie, puisque vous avez eu ce débat, et j'y suis arrivé fort en retard, mais je sais, parce que j'ai écouté Mme Hélé-Béji et Mme Bakar dans d'autres circonstances, que vous aviez là, en même temps que Simone Suskind, des voix très compétentes et très chaleureuses concernant la situation dans leur pays. Et je viens du Parlement européen où il y avait une séance où Mme Radia Nasraoui a pris la parole pour là aussi susciter la solidarité avec la Tunisie nouvelle et les aspects démocratiques qui sont aujourd'hui menacés. Simplement, je voudrais dire un mot sur la présence de Wallonie-Bruxelles en Tunisie, puisque nous sommes là avec un programme traditionnel de coopération, mais aussi avec trois axes qui correspondent, je crois, assez bien à la situation actuelle. Il s'agit d'une part du soutien aux médias tunisiens, et la semaine prochaine, il y aura quatre jeunes journalistes tunisiens qui viendront dans les médias bruxellois, en l'occurrence, Bell RTL, l'agence Alter et d'autres. Donc il y a un programme de soutien aux jeunes journalistes tunisiens, il y a un programme de soutien aux associations tunisiennes, et notamment celles qui défendent les droits des femmes et qui veulent aller au-delà de ce que les femmes ont déjà garanti par le statut personnel. Et il y a enfin un troisième programme qui est un programme d'une perspective de jumelage entre des communes belges francophones et des communes tunisiennes. Et le témoignage que je voudrais apporter ici, moi-même et ma femme Françoise qui habitons à Tunis, quand nous allons régulièrement à l'intérieur du pays, quand nous allons à Kasserine, quand nous allons à Zbitla, quand nous allons à Béja ou au Kef, nous voyons là des associations de jeunes qui sont particulièrement actives, qui suivent leur ligne, qui est la ligne entamée par la révolution du 14 janvier. Et donc je voudrais vous engager à ne pas garder ou avoir à l'esprit de la Tunisie d'aujourd'hui une image trop pessimiste, mais vous dire qu'il existe un rapport de force qui n'est pas du tout décidé, qui reste totalement ouvert entre les forces de progrès, au sens large du terme, qui veulent une Tunisie moderne, active, prospère, présente dans le monde, et ceux qui veulent en revenir à des schémas anciens. Donc, ne partez pas de cette séance, je ne crois pas que ce sera le cas, mais venez en Tunisie, choisissez vos partenaires, là où vous, dans les domaines où vous êtes vous-même compétent, et faites tout ce que vous pouvez pour soutenir les humanistes et les démocrates en Tunisie. Merci de votre attention.
Merci. Merci, monsieur Soile. Je crois que nos invités tunisiennes, en tout cas, ont apporté des touches de nuances vraiment pertinentes pour combattre les clichés, les idées reçues. Et ça, sans éviter certainement les défis qui vous attendent. Et je crois que si les Européens peuvent vous aider, bon, on verra. Je rends la parole à Julie de Grode.
Merci. Alors, un vrai tout grand merci pour cette matinée qui était extrêmement riche. Merci à Daniel Soile d'être venu à la fin, parce que c'est vraiment ici le suivi de notre mission, comme l'a dit Nadia El Youssefi. On avait toujours dit, on va en mission là, mais on veut avoir une suite, on veut faire un suivi de cette mission, et la voilà. Et j'ai trouvé particulièrement intéressant cette discussion autour des mots, parce que les mots disent beaucoup de choses, et au fond, on voit bien que les mots ne veulent pas tous dire la même chose au même moment pour tout le monde. Et quand on parle, par exemple, de légitimité démocratique, on en a parlé beaucoup, ben, c'est vrai, on a aussi, pour ne pas prendre la Belgique, où ce problème se pose toujours, on vient d'avoir des élections en Italie où il y a une légitimité démocratique qui sort des urnes et par rapport à laquelle tant la société civile que les politiques se positionnent, disent « est-ce que c'est vraiment légitime ?» etc. Et donc, c'est vraiment intéressant, ces mots de légitimité démocratique, de parité, de féminisme, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, de laïcité, de neutralité. On est en Belgique, vous parliez du siècle des Lumières, nous n'avons pas la tradition du siècle des Lumières, et c'est intéressant, hein, quand on cite justement les esprits français, je me dis toujours, tiens, comme belge, c'est intéressant de voir ce que nous avons dans notre constitution, justement. Et justement aussi ce statut de la constitution. Est-il un statut immuable ? Il est certainement supérieur. Ou est-il évolutif ? Vous parlez aux experts, aux orfèvres du changement constitutionnel. Hein, ici, les Belges, en Belgique, on est les experts, sans très grand état d'âme, d'ailleurs. Et donc, par rapport à ça, d'ailleurs, pour moi, si je pouvais me permettre, et je disais ça à Madame Bakar, et je l'avais dit plusieurs fois aussi sur place, c'est peut-être le rendez-vous électoral, qui est peut-être, s'il y a des hiérarchies, encore plus important aujourd'hui que le rendez-vous de la Constitution. Et c'est ce que vous avez dit, en quelque sorte. Mais évidemment, ça paraît un peu bizarre de dire ça, parce que qui ne dirait pas que l'élaboration de la Constitution n'est pas important. Mais le processus législatif, maintenant, réussir vraiment, parce que cette première fois était dans un autre contexte, le contexte de la Révolution, réussir vraiment maintenant le processus législatif, je me permets de penser que ça pourrait être même plus important que ce processus de Constitution, qui tout compte fait est dans un autre temps. De nouveau, vous parlez aux orfèvres des révisions constitutionnelles. Nous, quand on vous rencontre, les constituants, qui nous disent on doit terminer la Constitution dans les 2 mois, absolument, c'est vrai que les Belges que nous sommes, on se dit good luck, hein, parce que nous, on fait de la révision de Constitution. C'est un autre temps aussi. C'est un autre temps, la révision de la Constitution. Mais le processus législatif, ah, ça c'est la démocratie. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le rendez-vous de la démocratie. Et madame, comme présidente d'Assemblée, je partage moi aussi les états d'âme, hein, comme madame Bakar l'a dit. Le matin, on se réveille et on se dit parfois, bah, voilà. J'ai d'ailleurs commencé par un état d'âme sur ce qu'étaient les démocraties parlementaires aujourd'hui. Hein. C'est quoi aujourd'hui les représentants du peuple, justement comme Montesquieu, hein, la première branche du pouvoir législatif? Ça n'a évidemment plus rien à voir vis-à-vis du monde moderne, des blogueurs, d'Internet, de tout ça, de ce qu'est vraiment la démocratie aujourd'hui, ou en tout cas qu'on estime l'être. Mais si on ne fait pas, et alors on a toujours l'absentéisme, et je dis ça toujours devant des parlementaires qui sont toujours là, voilà, toujours là, Fatoumata Sidibé, Nadia Youssefi sont toujours là, toujours présents. Donc quand on parle de cet absentéisme, de ce problème, de la maladie aussi des démocraties, les nôtres, on parle toujours devant ceux qui sont d'ailleurs présents. Ça, c'est comme ça, évidemment. Mais si à un moment, et je parle ici comme présidente d'Assemblée, on ne continue pas à croire à une représentation, à un débat, à une prise de parole, à justement cette démocratie parlementaire que nous sommes, si on pense qu'il ne faut donner que à des technocrates qui sont l'exécutif, le pouvoir, là, il n'y a vraiment plus de démocratie. Et donc, tous les jours, quand vous dites, le matin, je me lève et je me dis, est-ce que je fais vivre cette démocratie, au fond, ou pas, j'ai un peu les mêmes matins que vous. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait, l'exercice qu'on a fait aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est d'avoir fait vivre cette démocratie dans un lieu qui est signifiant, qui est notre lieu de démocratie parlementaire aujourd'hui. Et donc, voilà, par ailleurs, cette démocratie, elle doit se redéfinir. Moi, je parle ici de nouveau comme présidente d'Assemblée. Évidemment que nos démocraties doivent se définir. Nous ne sommes plus ces fameux représentants du peuple dit de Montesquieu, la première branche du pouvoir législatif, on vote pour quelqu'un et puis on délègue. Non, on ne délègue plus. Les gens y participent. Ils sont sur leur blog, ils sont sur leur Facebook, ils sont partout présent avec justement les médias qui jouent leur rôle. Mais on doit continuer à y croire. On doit continuer à y croire par des matinées comme ceci, par des activistes comme vous êtes et par des tout petits pas qu'on fait et qui ne réussissent pas toujours. Allez, je dis avec un petit sourire, au lieu d'amener un valse à Lambert, qu'est-ce que le Parlement francophone bruxellois a amené? Au lieu d'amener un vase du valse à Lambert et des pralines, qu'est-ce qu'on a amené? Un logiciel de transparence, vous parliez des médias, un logiciel qui permet de voir où on en est en fait, où est-ce qu'on en est dans tous ces travaux parlementaires. C'est hyper important et on l'a fait à la belge, c'est-à-dire au fond sans arrogance. On n'a pas dit c'est tout ça que vous devez mettre dedans, on a dit on vous donne le logiciel et vous mettez dedans ce que vous voulez, beaucoup, beaucoup ou un peu. Et manifestement, on aurait dû avoir un beau valse à Lambert dans les couloirs de la Constituante. Voilà, il aurait été vu. Mais je ne désespère pas. Il ne faut jamais, jamais désespérer pour faire vivre la démocratie. En tous les cas, vraiment un grand merci. Alors, il y a un verre de l'amitié, des sandwichs à la cafétéria qui est là. Donc, vous prenez la...
la porte là et vous avez quelque chose à boire et quelque chose à manger. Et bien entendu des gâteaux tunisiens.